Cette semaine dans le balado, un démon s'invite à l'école et on explore l'imaginaire d'une enfant. Bienvenue à mon ciné-balado, vous êtes accompagné de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff!
Allô! En fait, on explore l'enfance d'une, l'enfance d'une jeune enfant qui ne va pas à l'école. Mm-hmm. C'est peut-être comme ça qu'elle s'est baquée de problèmes avec un démon.
Ben oui, c'est l'éducation est à l'honneur cette semaine.
Voilà! Et on a un commanditaire,
ben oui,
la première fois de l'histoire. Est-ce que c'est un cinéma, un film, une école de compagnie de caméra vidéo? Mais non, c'est une école de danse. Fait que ça pourrait être tes premiers pas pour te rendre dans un musical.
Ouais, écoute. Bien sûr.
Voilà,
la révolution, c'est... un jour.
Ouais, écoute, je suis du moins dans le monde de la télé. Là, fait que, révolution, le film, là, j'embarque. C'est l'école de danse Porto Swing qui nous dit que si ton cœur bat au rythme de la musique, ils ont une annonce palpitante, c'est-à-dire que l'école de danse Porto Swing ouvre grand ses portes pour t'offrir un voyage dans le temps de l'effervescence du jazz des années folles à l'énergie du rock and roll des années 50. Rejoignez-les lors de leur session passionnante qui débute à chaque saison sur des périodes de 12 semaines où ils proposent une variété de cours captivants et qui sont très plaisant à énumérer différents styles de danse swing, donc Lindy Hop, Rockabilly Jive, West Coast Swing, Boogie Woogie et bien d'autres. Et je me plais beaucoup à lire ça. C'est des cours de 1h30 par semaine, donc 18h au total. Et l'école de danse Porto Swing fête ses 20 ans cette année. Là, fait que c'est pas oh, des pee-wee.
Mm-hmm.
Puis ils offrent également aussi des animations puis des spectacles pour des événements publics ou privés. Là, si vous voulez pas apprendre à danser, mais que vous cherchez une école de danse pour un événement spécial. Et que vous soyez débutant à la recherche de vos premiers pas de danse ou que vous vouliez perfectionner votre technique pour électriser les planches de danse, l'école de danse Porto Swing a le cours qu'il vous faut. Si vous cherchez l'esprit de famille, le plaisir de danser ou tout simplement une nouvelle expérience, c'est l'école qui est faite pour vous. Et ils sont situés dans la ville de Québec, mais il y a deux succursales, une à Sainte-Foy et une en Basseville. Donc, pas d'excuses de distance si vous êtes dans la ville, évidemment, ou aux alentours. Ne manquez pas cette chance incroyable de vivre cette expérience qui fera bouger vos pieds, vous fera sourire comme jamais. Visitez leur site web, le www.porto.com. Porto Swing, donc PORTOSwing.com, et suivez-les sur leurs réseaux sociaux pour ne rien manquer des événements et des futures sessions.
Mais moi, tu vois, à choisir un style de danse, ça serait mon genre, honnêtement, parce que j'aime beaucoup la musique de cette période-là. Le début du rock and roll, là, mi-50, fin 50, j'aime beaucoup ça.
Mais on dirait que c'est aussi un style... Ben, à part si tu vas dans des endroits plus hip-hop et ces trucs-là, mais on dirait que dans le style rock, c'est quelque chose que comme tu rêves de faire on rêve de faire comme une espèce de danse improvisée. Tu sais, s'il y avait de la musique dans ma vie, là, comme une trame sonore qui me suit, là, c'est clair qu'il y aurait comme du swing puis des affaires. Puis je sais pas si j'aurais le look Fedora, là, si je le pullerais off. Mais non, c'est bien. Ça fait un peu Marty McFly et tous ces trucs-là.
Ben, bien
là,
sûr, voilà, ben oui, tout à fait. Allons-y avant d'attaquer les sorties de la semaine. Encore là, petite semaine en termes d'actualité de bande-annonce. Je vais y aller avec les
OK,
les
on
nouvelles.
Commence en bande... OK, ouais, c'est ça.
Ben, avec les nouvelles, ouais,
quelques
c'est ça.
Nouvelles.
Écoute, deux trucs qui ont retenu mon attention. Il y a un gros buzz à Venise présentement avec le nouveau film de Yorgos Lanthimos, Poor Things, qui met en vedette Emma Stone.
Oui, à un moment donné, il était annoncé pour septembre. Finalement, c'est décembre.
Oui, ou... c'est ça qui était repoussé. À descendre. Donc, le film est une espèce de variation sur le thème de Frankenstein, là, où quelqu'un, un médecin ramène à la vie le personnage d'Emma Stone.
Ouais, c'est Mark Ruffalo, je pense, qui fait
ouais,
le
c'est
médecin.
Ça, ouais. Donc, on dit beaucoup de bien de ce film-là, mais en conférence de presse, la comédienne et le réalisateur ont révélé qu'ils ont tourné un film secret.
Ah ouais, OK.
Ouais, donc tout de suite après Poor Things, donc évidemment, l'histoire est gardée top secret. On n'en a pas révélé, mais ils ont dit oui, on a tourné de quoi ensemble. Alors, il faut croire qu'il y a des atomes crochus parce qu'elle avait auparavant tourné dans son film, c'était The Revenant, qui avait eu...
Yorgos, il a fait The Lobster, il a fait The Favorite.
Oui, Revenant, c'est autre chose, The Favorite, avec la comédienne...
Olivia Colman.
Non,
pas Rebecca Ferguson, c'est l'autre anglaise.
Ouais, ça fait longtemps que je l'ai vue.
Ben, elle était en rivalité, voyons. Elle qui est... Ah, yeah, ça va être des drôles d'exemples. Elle qui était dans Les Momies, là.
Rachel Weisz.
Oui, c'est ça.
Donc, qui était très, très, très bon d'ailleurs. Alors, bien hâte de voir Poor Things et ben, ce nouveau film-là, Top Secret, qui va, j'imagine, prendre l'affiche quelque part c'est en 2024.
Ça. Mais c'est pas lié, là.
Non, non, c'est vraiment
c'est pas
autre
comme
projet...
un Pearl Maxine X, non, non. Là. C'est ça.
Ce n'est pas un prequel ni un sequel. je pense qu'ils ont juste eu le goût de tourner un autre petit film très indépendant, j'ai l'impression, là.
Ouais, puis il fait partie Yorgos Lanthimos, de ceux qui ont des styles quand même très éclatés, puis ouais. Surtout aussi dans les scénarios, les dialogues, j'excuse, de ces personnages qui sont un petit peu anormaux et tout, là, fait que très sympathique.
Sinon, ben écoute... Ben,
mais Tiff commence aujourd'hui, là, fait ouais. qu'on n'a rien entendu parler encore.
Mais bon. Non, il va y avoir une déferlante... probablement de nouvelles et de buzz et tout s'entourant différentes projections là, qui débutent à Toronto, quand même un festival d'importance. Sinon, ben écoute, c'était sorti, je pense, la veille de notre dernier enregistrement. C'était le fameux combat de Rotten Tomatoes des réalisateurs, puis on a comme objet... T'as pas suivi ça?
Non. C'est un pool ou quoi?
Ouais, c'est ça. En fait, c'était comme des combats, là. Ils jumelaient des réalisateurs. Et la grande finale mettait en vedette Christopher Nolan, en fait, c'était les réalisateurs des 25 dernières années.
Okay.
Donc, on éliminait les Spielberg et Coppola et compagnie.
Le placement du début, c'était-tu fait aléatoire? Tous les affrontements étaient...
quand même. Fait que, il y en avait des... Je dirais pas des douteux, mais des pas évidents, des fois des styles différents. Puis c'était les gens de Rotten Tomatoes, les internautes qui pouvaient voter là-dessus. Mais la grande finale, c'était Christopher Nolan.
OK.
Contre Denis Villeneuve.
Ah ouais, OK.
Quand même.
Puis est-ce que là, c'est gagné? Là,
ou... Oui, c'est ça. Ça a été annoncé, je pense que c'était jeudi dernier.
J'ai l'impression que Nolan a gagné parce qu'il a fait plus de films à date. Puis le monde... Tu sais, Denis Villeneuve est... c'est super cool qu'il soit rendu là, mais il est très apprécié. Mais Nolan est comme... vénéré.
Tout à fait. Puis, regarde, on le voit avec Oppenheimer. C'est-à-dire, il a ouvert le film à lui tout seul, a créé un buzz parce que c'est Christopher Nolan.
Ouais.
Ce que Villeneuve n'a pas encore atteint. Peut-être
mais je suis
raison.
Surpris qu'il
ben, écoute,
là,
déjà là, en finale, c'est incroyable. Fait Christopher Nolan l'a remporté, mais quand même, un vote assez intéressant. 56% pour Nolan, 44% pour Villeneuve.
Okay,
fait quand même, là, c'est pas un landslide. Donc voilà, fait que c'est la petite...
Ah,
la
j'ai manqué ça, j'ai pas voté, ouais. Écoute. T'avais-tu participé à certaines étapes?
Non. Okay. En fait, je l'ai vu quand la finale a été annoncée, tout simplement. Fait que c'est rare, honnêtement, que je vais sur Rotten Tomatoes, je vais à l'occasion, mais...
Y avait-tu quand même quelques femmes un peu dedans? Greta Gerwig était...
Ouais, t'avais Sarah Pauley aussi qui était là, okay. Une autre Canadienne... Wes Anderson, en tout cas, tu avais quand même plusieurs. Même le réalisateur de Parasite aussi.
Bong Joon-ho.
Ouais,
okay.
Qui, si ma mémoire me semble, à un moment donné, affronter Villeneuve. Je pense que c'est Villeneuve qui l'avait battu.
Mais tu sais, pas en même temps. C'est tout ça de la vie, même, je veux dire, même si c'était des professionnels, entre guillemets, des critiques, quoi que ce soit, c'est toujours un avis personnel
ben
à
oui,
un certain point. Fait que là, tu sais, Bong Joon-ho, tout le monde pense juste à Parasite, mais il y a plein d'autres films. Fait qu'à un moment donné, c'est toute la filmographie, mais personne. T'as pas d'obligation avant de voter, là. Fait que tu dis juste, hey, d'une, je trouve ça plate, fait que j'aime mieux Batman, puis tu votes pour l'autre, puis c'est fini, là. C'est pas...
Non, il y a rien de
ça. Ça manque un peu de rigueur, là, tout ça, probablement, mais c'est surtout l'opinion populaire. Ouais.
Ben voilà. Bonne annonce de la semaine.
Écoute, The Bike Riders de Jeff Nichols. J'ai juste vu Maude dans ses anciens films. J'ai pas vu Midnight Special. Qui était,
moi, je n'ai vu aucun, honnêtement. Okay. Je sais pas d'où il sort.
Ouais, je sais pas trop le genre de cinéaste qui est rendu à son 4-5e film. Il y a des films avec des gros comédiens établis, comédiennes à chaque fois, mais personne ne sait tant que ça c'est qui. Puis à chaque fois que ça sort, c'est vraiment indépendant. Là, il y a pas trop de... Ben, pas indépendant, mais petit budget puis film niché pour ces compagnies-là. Là, je sais pas qui... Il est toujours avec les mêmes. Mais là, c'est un film de moto, un film de motard, de criminalité, avec Austin Butler, qu'on faut s'habituer à voir parce que là, depuis Elvis, et qui va être dans le prochain Dune, et qui va être dans Bike Riders, et etc., dans de plus en plus de films. Jodie Comer aussi, qui était dans les révélations là, depuis quelques années. Et Tom Hardy, on parlait de Christopher Nolan. Et Michael Shannon, qui était justement dans aussi Midnight Special de Jeff Nichols. Fait que je pense que le Austin Butler est comme un biker, un jeune biker, un peu plus jeune motard, Jodie Comer et sa conjointe, puis là, on sent que c'est à travers elle qu'on va apprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé, là, j'imagine.
Ouais, ben c'est dans le crime organisé de Chicago des années 60, de ce qu'on peut voir dans la bande-annonce. Donc, je pense que c'est l'émergence un peu là, de ce club de motards-là là, qui commence.
C'est un club réel ou c'est fictif?
Ben, dans la bande-annonce, c'est marqué inspiré d'événements réels, là, mais je sais pas jusqu'à quel point, j'ai pas fouillé.
Ouais.
Mais probablement que c'était vraiment un vrai club de criminels. Donc, je pense que la trame narrative fait penser un peu à Goodfellas, où je pense justement le butler, comme tu sais, le jeune qui arrive dans le groupe avec des vétérans, puis il doit faire probablement sa place, faire ses preuves et tout ça, puis il va avoir probablement sa déchéance ou quelque chose comme
ça.
Là. Donc, mais ça a l'air super intéressant, honnêtement, juste de placer ça dans les années 60. Côté recréation d'époque, ça avait l'air vraiment bien fait. Là, puis,
ouais. Il doit avoir un soin aussi, c'est sûr, sur comme les motos de l'époque. Là.
Ouais.
Ou peut-être pas des motos des années 60, mais des motos des années, je sais pas, 45-50 qui étaient cool quand t'étais 60 parce que c'était un peu rétro ou je sais pas trop. Je connais pas assez la mécanique pour reconnaître des modèles.
Avais-tu noté une date de sortie? Moi, je l'ai pas fait.
Il parle du 1er décembre, mais c'est le genre de film là, qui.
La plateforme,
qui ouvrirait. Là, puis, comme dit, plateforme, c'est pas en ligne, mais t'es limité à telle place, puis un peu plus tard, on l'ouvre plus large, puis etc. Je ne sais pas s'il va y avoir une version française pour ce genre de film-là. Ça a l'air d'un petit projet qui va glisser entre deux cracks. Là. Surtout que je pense que c'est un Fox.
OK.
Fait que...
J'avais pas remarqué.
Il est peut-être sa bannière Disney, mais je serais pas surpris qu'il soit sur Fox. Fait que déjà, en tout cas, je veux pas froisser personne. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins d'argent dans ces mises en marché-là. Là, ils ne savent pas exactement encore quoi faire avec ces produits-là, Disney, même si ça fait plusieurs années qu'ils ont acquis ça. Là. Fait que, à découvrir, mais je pense que ça va être une petite perle là, pour.
Ouais, ça pourrait être une belle surprise.
Pas tout à fait film d'action, mais un peu entre les deux. Là,
Pour les amateurs de. C'est quoi la série encore télé?
C'était Sons of Anarchy.
Ouais, Sons of Anarchy. Ouais,
c'est ça. Mais juste, j'avais commencé à l'écouter, tout le monde en parlait. Ça avait mis aussi Charlie Hunnam pas mal sur la map, comme on dit. Mais c'était un peu quétaine.
Moi, j'ai jamais écouté.
Ok, ben, j'ai écouté juste la saison 1, mais en fait, c'est. Pas Ketan, Cheesy, c'est plus over the top. C'est trop gros ce qui se passe. Là. Je pense qu'il était à Oakland ou quelque chose comme ça, en Californie. Mais tu sais, ils décrivent ça comme ils sont dans un petit village, puis il y a comme des grosses guerres de motards, puis des clubs qui descendent du Mexique, qui remontent du Mexique pour foutre la pagaille, puis des guerres de gang. Puis ça fait vraiment plusieurs années que j'avais écouté ça, mais j'avais comme un peu décroché. C'était au moment où le monde disait « Ah, c'est quand même bien, tu devrais écouter ça. » Tu sais, personne ne m'a dit que c'était la meilleure chose au monde. Mais là, tu le reçois, il y a 7 saisons, t'en écoutes une. Ouais, tu dis « Ah non, là, c'est quand même des 24 épisodes d'une heure, là, 20 épisodes d'une heure. » Je suis comme
«
Non, c'est un peu trop... » C'est trop mélodramatique un peu là pour... Mais dans le monde motard, là, il y avait de quoi de sympathique. Là. Quand tu voyais les manières puis les procédures, ces trucs-là, c'est intéressant, mais la trame narrative ne l'était pas nécessairement. Là. C'était un peu trop gros, là.
Comme Bike Riders, moi, j'ai bien hâte de voir. Puis sinon, dans un tout autre genre...
Ouais, un film que je
ne... L'action de grâce.
Que regarde, tu viens de dire, un que tu as hâte de voir, un que je ne pensais pas voir de ma vie. Et je t'en parlais hors d'onde. Par curiosité, je ne sais plus pourquoi j'ai entendu parler de Tarantino, quelque chose, dans les dernières semaines. Puis là, je suis allé revoir les fausses bandes-annonces qu'il y avait dans le programme Grindhouse, là, quand il y avait Planète Terreur et Death Proof qui jouaient. Puis là, il a fait des fausses bandes-annonces entre les deux. C'est là que Machete était né, de Robert Rodriguez. Il y avait Edgar Wright qui avait fait une bande-annonce en blague aussi qui s'appelait Don't. Puis là, c'était comme si tu veux rentrer dans cette porte, Don't. Puis là, c'était des trucs de manoir. Fais-le pas, puis tout le monde va mourir. Il semble qu'il y avait un autre. Ah oui, Rob Zombie avait fait la bande-annonce de. Woman, Werewolves, Woman of the SS, là, une affaire comme ça. Puis il y en avait une de Eli Roth qui s'appelait Thanksgiving. Fait que c'était comme un tueur à Thanksgiving, ce qui a absolument pas nécessairement de sens. Là. C'est une fête célébrée, genre une journée. Puis là, tu voyais, très tourné, là, c'était, on se rappelle du Grindhouse, toutes ces choses-là, là, comme si c'était un vieux film des années 60. Puis tu sais, avec des qualités cheap, puis la mascotte qui se fait trancher la tête sur la place publique, puis des choses comme ça. La fameuse scène, en tout cas, si vous vous souvenez de la bande-annonce du couteau avec la trampoline, là, le trampoline, la cheerleader, là, bon. Et, fait que là, c'était mort, là, ça fait quoi, 13 ans, cette affaire-là? C'était en 2006-2007, à peu près. Puis, 16 ans, ça veut dire. Puis, là, paf! J'ai reçu cette semaine un poster de ça, puis là, la bande-annonce est sortie. Le ton n'a pas l'air aussi comique, burlesque que la fausse bande-annonce il y a plusieurs, un certain temps, mais je pense que ça reste un peu une comédie d'horreur.
Ça a des vibes de Scream un peu, là,
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ce genre de comédie d'horreur un peu méta, là, Fais-moi peur, comment ça s'appelait? Non, Scary Movie, là, film de peur, là, pas à ce niveau-là. Fait que bref, c'est un teaser, on sait pas trop qu'est-ce qui se passe, mais il y a un tueur qui est déguisé en vieux Pilgrim, là, en vieux, comment on appelle ça, les pèlerins.
Pèlerins, ouais. Non? Ouais, c'est ça. Okay. Un pèlerin, ouais.
Fait qu'un vieux pèlerin. Et non Théodore. Avec une... Pardon?
Et non Théodore.
Non, pas Théodore pèlerin, ça sera la semaine prochaine. en vieux, c'est ça, machin qui tue du monde. Mais là, ouais. Tu sais, c'est un teaser d'une minute, on sait pas l'histoire, mais il va y avoir des ados à l'action de grâce qui vont se faire tuer un après l'autre.
Dans une petite ville de la Nouvelle-Angleterre. Écoute,
c'est très ancré. Puis c'est prévu pour le 17 novembre. Fait que c'est comme au lieu d'avoir une espèce de hit and run d'Halloween, ben c'est un de Thanksgiving. Fait que moi, je suis juste curieux de voir. J'avoue que j'ai pas vu tous les films d'Eli Roth. Je le connais beaucoup de réputation et tout, mais il y a souvent un de ses films qui était... je me souviens de Green Inferno, mettons.
Oui,
hein.
Celui-là, je l'ai vu.
Je l'ai pas vu, mais cannibale, c'était... Mais c'est ça, mais c'était sorti très limité, là, et tout.
Qui était très intense, honnêtement, très graphique. Il y a les Hostels aussi qui avaient eu certains succès. Oui,
ça
m'écœure,
vraiment.
Ouais. Donc, écoute, c'est le début d'une nouvelle franchise, peut-être. Je pense que le potentiel commercial est là. Honnêtement, ça a l'air vraiment le fun. Ça a l'air un bon slasher film à l'ancienne. Fait que j'ai hâte de découvrir ça, moi aussi. Ça.
Fait que, bref, y a pas... tout ce qu'il y a à dire, c'est l'espèce de mysticité autour du film. Je ne sais pas s'ils vont. Ben, ils vont sûrement sortir une bande-annonce plus complète qui nous montre un peu plus l'histoire. Si ça se trouve dans une semaine et demie, là, juste leur timing là, pour faire parler de ça. Mais en tout cas, c'est Sony Pictures qui nous offre ça. Y avait-tu autre chose? Avais-tu remarqué?
Non, moi, c'est tout pour les bandes-annonces. D'ailleurs, on peut rester dans l'horreur et parler de la grosse sortie de la semaine.
D'accord.
The Nun 2 de Michael Chavez.
La religieuse 2 au Québec.
Ouais.
Michael Chavez, comme tu as dit, qui a déjà fait... En fait, c'est le 9e film de l'univers de la Conjuration. Mm-hmm. Et petit truc rapide, moi, qui m'est souvent arrivé, parce qu'en plus, on a eu un de... Insidieux récemment. Ouais. Puis à cause que Patrick Wilson est comme dans les deux univers, je les mélange souvent ensemble, là, mais bon.
Insidieux. Et produit par James Wan.
Ouais, c'est ça. Insidieux, c'est ceux où ça se passe dans leur tête, dans les rêves connectés avec la porte des morts.
Dans le monde des morts.
Puis toutes les conjurations, c'est les affaires avec la poupée Annabelle ou Valak, la méchante religieuse. Ouais. Puis dans le fond, c'est un couple qui aide à régler des histoires de possession puis d'affaires bizarres.
Les Warren.
C'est ça. Fait que t'as comme les trois films de la Conjuration qui a ça, puis au travers, t'as plein de films d'Annabelle, puis là, t'as plein de films de la nonne, de la religieuse. Mm-hmm. Fait qu'on est rendu au 9e film de ça, et c'est juste comme parenthèse, en 10 ans, c'est complètement fou. Et là-dessus, il y a eu genre 2 années de pandémie où il y avait près pas de films qui sortaient, puis ils ont réussi à sortir 9 films dans 10 ans comme ça. C'est rendu à 672, puis là, ça compte pas le dernier parce que les chiffres ne sont pas rentrés, là, ça commence à peine. 672 millions aux États-Unis, puis plus de 2 milliards mondialement.
C'est profitable.
C'est clair que c'est pas le dernier film l'univers des Warren et de la Conjuration et de tout. Surtout qu'en plus, quand on remonte, je pense que tous les films se passent entre les années 50 et 80, début 80 pour le dernier Conjuration. Là. Fait que l'ordre qu'ils font les films ne sont pas l'ordre chronologique. Là.
Mm-hmm.
Fait que ici, on va retrouver encore comme une espèce de méchant démon Valak qui a fait son apparition dans la Conjuration 2. Fait que là, après ça, il y a eu. Fait qu'on est dans des préquels en ce moment, si on veut, des histoires qui se passent avant. Fait qu'il y avait eu La Religieuse et là, il y a La Religieuse 2 qui se passe, je ne me souviens plus, mi-50, 56 à peu près, là, quelque chose comme ça. 1956. Mmh. On est en France et on se retrouve à être à peu près 4 ans après les événements du premier film où une jeune sœur. Donc, une nonne, mais une gentille nonne cette fois, avait croisé une méchante nonne en Roumanie, puis elle avait réussi à régler la situation, mais là, oups, c'était pas complètement réglé parce qu'elle revient cette fois, c'est ça, en France, dans un internat, un genre de couvent, là, où des jeunes étudiantes apprennent la vie et l'arithmétique. Fait que c'est un peu ça. Fait qu'on va voir tranquillement les événements évoluer et la jeune. religieuse, être au courant et s'en venir pour essayer de réparer les pots cassés. Troisième film de Michael Chavez, tous dans cet univers-là, en fait. Il avait fait le dernier Conjuration, mais aussi le Curse of La Llorona, qui est comme un autre genre de spin-off au travers de tout ça, là, un peu plus contemporain, là, genre des années 70 à L.A.
Tu me passes la rondelle.
Le confessionnal.
Tu n'avais pas vu le premier. Ouais.
Moi, tout ce que j'ai vu, c'est La Conjuration 2. Fait que j'avais vu l'introduction de Valak. Ouais. Et ça se passe vraiment avec les Warren, tandis que là, ils sont pas là. On est dans le passé.
Tout à fait.
Fait que non, j'avais pas vu le premier. Puis c'est ça qui m'a un peu débiné, un peu, si on veut. C'est que je pensais qu'il allait le faire imbécile proof. C'est-à-dire que dès le début du film, il allait me dire « Hey, c'est ça qui s'est passé, puis on est là, puis on est là. » Et aussi, je pensais que c'était des nouveaux personnages. J'étais là, ah, sûrement que tout le monde est mort, puis elle s'est sauvée, puis là, ça continue. Puis ça a pris un certain... Je t'ai posé beaucoup de questions, puis éventuellement, j'ai eu des réponses à mes questions, mais ça a pris beaucoup de temps dans le film, une bonne demi-heure avant que là, je comprenne que c'était la même, la jeune religieuse, c'était la même.
Le protagoniste.
Qu'il y a un Français, que lui aussi était dans l'autre film d'avant, puis des trucs comme ça. Que... Parce qu'au début, il y a des mélanges du temps réel, des flashbacks, puis des prémonitions, genre. Ouais. Fait qu'il y a comme les trois en même temps. C'est un petit peu déstabilisant quand tu connais pas les personnages. Fait que c'est un peu mon défaut sur le film. Mais juste là, si vous savez que ces personnages-là reviennent, ben soit tu peux lire deux secondes là-dessus ou juste vous allez finir par comprendre. C'est juste que c'est pas ça commence pas avec « Souvenons-nous de qu'est-ce qui s'est passé il y a 4 ans », disons.
Donc, oui, c'est un film qui est dans la continuité du premier, pour ceux qui l'ont vu et apprécié. Je pense que vous allez apprécier ce deuxième volet-là aussi. Je dois avouer que la formule est très classique, là. On se fera pas d'idée. Donc, on est vraiment dans tous les beats du scénario de film d'horreur, comme on dit. Là.
Fait que la tension qui monte, les
Le problème de personnage, de foi, puis le lien avec sa mère, là, on est beaucoup... on joue beaucoup sur ces tableaux-là. C'est très prévisible, ça, je voulais dire. Par contre, au niveau technique, c'est très bien fait. Moi, je dois avouer qu'au niveau du design de la nonne, de la religieuse, de Valak, le démon, il y a quelque chose de cool. Elle est vraiment assez terrifiante là, pour ce côté-là. Lorsqu'ils avaient conçu ce personnage-là, ils avaient visé dans le mille. Donc, on réinvente pas la roue. On est dans la continuité des films de la Conjuration. Si vous aimez ce genre-là, allez-y. Si c'est moins votre tasse de thé, ben c'est peut-être... attendez un autre genre de film d'horreur, peut-être. Là,
ouais, c'est ça, parce qu'il vit moins de lui seul. Surtout que, tu sais, c'est pas un gros spoiler. On est dans un prequel, donc ultimement, il va avoir un genre de solution à leur problématique, mais ils vont pas s'en débarrasser jamais complètement, parce qu'on le sait qu'elle revient dans les années 60-70 avec les Warren, justement.
Oui, puis d'ailleurs, dans le premier film de la Conjuration, on pouvait voir comme en image d'archive le fameux exorcisme de ce personnage-là, de Maurice, qui est dans les films La Religieuse. Donc, ce qui servait un petit peu là, d'introduction au personnage des Warren et tout ça. Donc, est-ce que il va revenir dans un troisième film, La Religieuse. Ça sera question à se poser. Parce qu'il y a aussi un Conjuration 4 en préparation.
Ah, c'est ça. C'est
donc, est-ce qu'on va faire un pont avec Valak, on va aller ailleurs? Donc, j'ai hâte de voir. Mais là, je pense que c'est pas la dernière fois qu'on va l'avoir.
J'ai l'impression que... Où ils vont prendre des personnages comme là, la sœur. Puis faire avoir d'autres enquêtes. Puis qu'elle parte de son bord. Parce que là, ils peuvent pas avoir... Tu sais, les Conjurations vont ailleurs. Là, ils ont fait 3 films d'Annabelle, là, 2 films de la nonne. Puis là, maintenant, ça va leur prendre des nouveaux produits pour, comme une pieuvre, là, étendre les branches, comme des racines.
Oui, mais effectivement, avec le personnage de Thaisa Farmiga, il y aurait quelque chose à faire parce qu'elle est quand même une très bonne comédienne, honnêtement.
Comme la jeune sœur de Vera Farmiga, elle qui joue la Madame Warren.
Ben oui, c'est ça qui est quand même drôle.
Mais une grosse différence d'âge, c'est une famille de, je me souviens plus, j'ai lu il y a quelques jours, 5 ou 7 enfants, là, pas mal, puis ils ont 20 ans de différence. Puis en plus, Vera n'est pas la plus vieille, elle est genre la deuxième plus vieille. Fait que leurs parents ont eu. Je sais pas l'âge de tous les frères et sœurs. Peut-être aussi qu'il y en avait plein de collés. Puis
la petite dernière.
Ça, des fois, une petite dernière qui est comme 10 ans plus jeune que l'autre et tout. Là. Fait que. Ouais, voilà. Puis elle se fait aider d'une autre sœur. Ouais. Elle a une amitié, l'autre jeune, qui est jouée par Storm Reid. Mm-hmm. Puis là, j'étais là aussi, je l'ai vu aussi, je l'ai vu. Là, je sais que je pense qu'il est dans les Euphoria, mais j'ai pas écouté ça. Mais c'était dans le dernier Missing 2.
Oui, bien, ça, ben oui, qui était très bonne d'ailleurs dans le film. Donc, une autre jeune comédienne qui prend du galon, comme on dit. Hein.
C'est ça. Puis là, dernier petit truc, ben, je sais que ça, c'est moi que ça me tente, mais tout le récit se passe en France, mais c'est en anglais tout le temps. Puis là, des fois, ils disent « Bonjour, monsieur! » Puis là, après ça, ils parlent en anglais.
Et même leur accent anglais varie parce que c'est pas... Il y en a qui a un petit accent britannique, il y en a un autre qui a un accent plus américain.
Mais lui qui fait quoi, Maurice, c'est un Belge.
C'est un Belge, ok.
Fait que lui, c'est un vrai francophone. Mais je comprends. Quelqu'un m'a expliqué ça aussi parce que moi, ça me buguait vraiment. Je suis là, tu sais, il faut parler la langue de l'endroit où on est. Mais quelqu'un m'avait dit non, c'est un peu comme si on te contait une histoire. Tu sais, fait que tu t'imagines. Tu sais, le contexte puis tout fait que tu le sais qu'ils sont français, mais tu le comprendrais pas s'ils sont français, fait qu'ils parlent anglais, mais c'est juste une idée de s'imager pour que toi, tu comprennes l'histoire qu'eux sont en train de dire, puis tu t'imagines qu'ils la disent dans une autre langue. C'est un peu ça. Et non pas de penser qu'ils parlent anglais.
Mais tu sais, nous, c'est étrange parce que vu qu'on est entre les deux, entre l'anglais et le français, mais tu sais, pour les Américains, eux autres, c'est juste normal. Là, on fait un film, puis tout le monde parle anglais sur la planète. Donc, on les fait parler comme ça.
Mais ça me fait ça pour... des films italiens ou n'importe quoi. Okay. Là, on dirait que... C'est pour ça que j'avais beaucoup aimé aussi Inglourious Basterds. Je reviens tout le temps là-dessus, Tarantino, parce que lui a fait... On va être dans plein de pays, puis chaque fois qu'on est dans le bon pays, on va parler la langue du pays, puis il va avoir des sous-titres, puis vous vous arrangerez avec ça. Ça a fait une richesse, puis ça a fait... Ça a pris 10-15 ans à le faire parce qu'il cherchait le Christoph Waltz, puis l'acteur qui pourrait parler 4 langues, puis être le bon casting, puis etc. Là. C'est une autre histoire. Mais t'en avais évoqué, je voulais juste revenir, mais oui aussi, je voulais souligner que même si le scénario est mince, la réalisation, je pense qu'elle est vraiment bonne. C'est pas un truc de tâcheron. Je pense que Chavez est comme attaché à cet univers-là parce qu'il doit bien travailler avec les producteurs puis qu'il livre quelque chose d'intéressant. Fait on va avoir une évolution des jumpscares, des trucs comme ça, mais je trouve que c'est quand même bien fait. Il y en a qui ont une certaine inventivité.
Oui.
La scène, vraiment, je l'écoutais puis j'étais là, hey, je pense pas que j'ai vu ça ailleurs.
C'est la scène du kiosque
à magazine, là, que le vent pogne dans les feuilles, puis là, toutes les feuilles tournent, puis être tout seul dans une ruelle. C'est vraiment c'est une des bonnes scènes de frousse du film.
Oui, la réalisation est quand même inventive par moments.
C'est ça, puis la reconstitution aussi de la mise en scène. Je sentais pas que c'était juste des comédiens avec des perruques puis des décors en carton. Là, j'y croyais vraiment tous les lieux de tournage, etc. T'sais. Fait que voilà, pour The Nun 2, qui a quand même des prévisions d'un gros premier week-end. Fait qu'on verra si
univers comme tu l'as mentionné d'entrée avec ses recettes très, très appréciées d'un public.
Oui,
là,
c'est sûr qu'il y a plein de gens qui, je veux dire, c'est à mesure qu'on a annoncé qu'il y a ce film-là, vont aller le voir, peu importe ce qu'on en dit ou... Il y a une certaine garantie de qualité, si on veut.
Et d'ailleurs, c'était le premier film, La religieuse, qui avait remporté le plus d'argent dans l'univers de la conjuration au box-office.
Ah donc, ouais, OK. Plus que les conjurations. Que la conjuration 1.
Non, même pas. Donc, okay. Tu vois.
Je sais que les derniers... en fait, ils marchent vraiment beaucoup à l'international. Mais tu sais, la recette d'un film d'horreur, c'est que... Il y a vraiment un public qui veut voir ça si tu fais un bon film, ta mise en marché est présente. Puis ça coûtera jamais 92 millions de dollars. Là,
Ah non, c'est un 10 à 20 millions, peut-être un peu plus maintenant là, parce qu'il y a plus d'effets numériques. Là. Mais non,
mettons le gros max 40, puis tu vas faire un 300, 350, c'est l'affaire est ketchup. Là.
C'est un bon rendement sur investissement, comme on dit. Alors, allons. Ailleurs, c'est rare qu'on vous parle plus en détail d'un documentaire.
Oui, c'est ça, cette semaine, le documentaire niché de la semaine. Ouais. Ben, on est allé le voir finalement.
L'île de Suquan de Perianne Inzegoz.
Jonathan Tremblay.
Pardonne-moi, Perianne, si je massacre ton nom de famille.
fait que c'est comme une coproduction ou production québécoise au travers de ça. Mais
nous, c'est le sujet avec qui nous a vraiment.
Mais Perianne est une Suisse, mais je pense que tout le reste de la production est québécoise. Fait qu'elle juste est attachée à tout ça. D'ailleurs, produit par Dominique Dussault, qu'on a rencontré il y a quelques semaines pour Les Chambres Rouges. C'est pas sur la maison de production des Chambres Rouges, mais c'est. C'est elle. Fait que j'imagine que c'était peut-être avant de former.
Juste donner un petit coup de main pour. Né à bon port le projet.
Ben, c'est que je crois que le projet a commencé il y a genre 10-11 ans. Fait que peut-être que Nemesis n'existait juste pas encore. Puis j'ai remarqué aussi au montage, c'est Jonah Malak qui a monté plusieurs documentaires. Il y en a réalisé un aussi qui s'appelle Dave Not Coming Back, qui était aussi chez Nemesis Films. Puis il a monté son premier film de fiction, peut-être pas, là, en tout cas, mais Les Chambres Rouges, bref. Je pense que là, il fait beaucoup du docu. Fait que c'est comme cette gang-là.
C'est dans la famille, ouais.
Puis il se retrouve sur l'île de Sukhwan. Mais bon, à part nommer qui c'est qui est là-dedans, c'est quoi l'île de Sukhwan? On est dans un coin reculé de la Thaïlande où on va suivre une fillette de 8 ans qui s'appelle Sukhwan, qui, à l'aide de ses parents, va tenter de construire une île, un genre de pays féerique, un peu dans la jungle, qu'elle a imaginé. Fait qu'elle a comme écrit des histoires, elle a imaginé un lieu fantastique comme on a tous ou presque tous fait ou participé quand on était jeune, quand on avait 8 ans, avec l'imagination débordante. Mais là, ce qui arrive, c'est que ses parents disent comme « Ben oui, on va essayer de le construire, puis ça va faire un genre de village
par
thématique,
ouais,
essaie d'avoir du financement pour attirer ça, mais pas comme... » Imaginez pas genre un monsieur contremaître qui fait tout ça, là. Son père est genre artiste peintre, ouais. Très manuel, très débrouillard, mais tu sais, on est en croque dans la jungle en Thaïlande, là. C'est ça, puis on fait ça en bambou, puis en ciment, puis maintenant on n'a plus d'argent, puis on attend, puis on part. Puis c'est quasiment surréel parce qu'on dit comment ils ont trouvé ces gens-là, puis pourquoi je vois ça, mais tu sais, en gros, là, j'ai de la misère, on passait un peu du coq à l'âne en parlant du film, mais c'est vraiment un film qui est dans le micro-détail, comme la situation très particulière de ces gens-là qui ont une fille unique, qui vivent un peu reculés, mais qui sont quand même,
très allumés.
Ouais, très allumés, puis érudits, oui, puis, oui. Puis exactement. Puis ils ont une vision quand même un peu plus à gauche. Ils font l'école à la maison avec leur fille. Ils sont comme, ben tu sais, on l'encourage à lire, à écrire, à faire des trucs, mais il faut qu'elle vive sa liberté, qu'elle a du plaisir, faut jamais brimer son imagination. Puis ils ont du plaisir à travailler avec elle, à construire ces choses-là. Fait autant cette situation-là est très unique, mais c'est la relation entre humain, entre parents-enfants qui est universelle, tu sais. Fait que c'est ça. Donc, au lieu de partir de l'universel puis de trouver le précis, c'est le classique de prendre quelque chose de très pointu puis de faire ressortir l'universel là-dedans. Puis... ben ce qui va arriver, c'est qu'elle va grandir, cette fillette-là. Fait qu'à un moment donné, ben, elle va se dire, ben là, il faudrait peut-être que je parte. Puis elle va devenir ado. Elle va un peu moins s'intéresser, mais elle va être consciente elle-même qu'elle va se désintéresser à ça. Puis, ben à un moment donné, ben, c'est la relation parent-enfant qu'il faut que les jeunes quittent le nid, volent de leurs propres ailes et tout. Fait qu'au lieu d'avoir juste un album photo de souvenirs, ils ont comme le projet du parc, de l'île magique... qui ont mis en branle un peu toute leur vie, mais tout le monde a l'air assez en paix avec ça. Mais là, les documentaristes sont restés là genre 6 mois et en revenir quelques fois parce que là, une bonne séquence à 8 ans, maintenant elle a 12 ans. Puis
éventuellement... Oui, le tournage a lieu sur 8 ans à peu près, a fait la durée du film. Et c'est peut-être une de ses forces aussi, là, c'est de voir l'évolution de cette petite fillette-là devenir une ado bien normale comme tout le monde, qui fait d'Instagram, qui veut magasiner, puis... qui a d'autres besoins qui arrivent. Mais c'est vraiment un sujet... singulier, assez original, bien traité. Fait que si vous aimez, vous êtes ouvert, vous êtes curieux de voir des choses différentes, là, des propositions intéressantes, allez le Sukhwan, je pense que je vous le recommande chaudement, là, juste pour découvrir autre chose.
Il y a quand même beaucoup de dialogues, il y a des narrations aussi, des textes que Sukhwan a écrits, qui ont réenregistrés. Mais ça reste un film contemplatif. C'est pas contemplatif, il se passe à rien, puis je filme, mais c'est juste, c'est pas... Tu sais, c'est la vie qui avance tranquillement.
Ouais,
il
n'y a pas de grand rebondissement dramatique.
Non, c'est ça.
Là,
c'est justement, c'est pas comme un parc d'attractions, puis on va-tu avoir le permis pour la grande roue, là. C'est pas ça, là. C'est comme...
Non, c'est
en bambou, puis en boîte, là. Ouais. Il y a quelque chose un peu... je sais pas si tu te souviens de la fantastique histoire du facteur cheval, là. Puis c'était comme un gars un peu boqué, là, qui voulait faire un grand château de pierre. Il y a un film qui a été fait il y a quelques années, mais ça venait d'une histoire vraie aussi, si je ne me trompe pas. Là, un espèce de grand château de bouettes et d'argile pour ses filles, genre. Fait qu'il travaillait toute la journée, puis le soir, puis toute la nuit, il faisait cette affaire-là. Puis c'était comme l'objectif qu'il avait en tête, là, un petit peu déconnecté. Là. Fait qu'il y a un peu ce côté-là de faire les choses pour sa fille, mais les parents, eux autres, sont très connectés, en fait, avec leur enfant. Là.
Donc, un beau travail de réalisation. Ils étaient que les deux, un réalisateur.
Ouais.
Donc, un à la caméra, l'autre à la prise de son. Et puis, comme tu le disais, donc Sukhwan, ils l'ont trouvé. Et en fait, ils l'avaient embauché comme interprète parce qu'ils étaient en repérage dans son village pour un documentaire sur l'éducation, les enfants et tout ça. Puis, C'est une des seules, j'imagine, de pouvoir parler en anglais parce que ce qui est quand même drôle, sa mère lui enseignait l'anglais sans trop comprendre le langage aussi. Là.
OK.
Puis en discutant avec cette fillette-là très allumée, avec une imagination débordante, ils ont rencontré ses parents, puis ils ont resté là un mois avant même de... C'était pas même pas prévu de faire le documentaire. Ils ont juste dit, on va cracher là. On va les regarder aller. Puis justement, pendant ce mois-là, c'est là qu'ils ont découvert cette douce folie-là qui habitait la famille. Puis ils ont décidé d'en faire un sujet. Là. Fait que quand même.
Ouais. Fait que voilà pour l'île de Suquan. Fait qu'il est en thaï et en anglais, sous-titré français ouais. Ou peut-être sous-titré anglais là, si vous êtes à Montréal. L'île de Suquan, comme on dit, ça sera sûrement pas très longtemps à l'affiche, mais il y a de quoi de justement très beau dans ce film-là. Il y a aussi, veux pas, un côté de vivre au rythme de la nature, là, mm-hmm. Même si c'est pas le sujet principal du film, tu comprends que c'est ça, là, sont très bohèmes. Évidemment, tu pourrais pas, ce serait très dur de transposer tout ça ici dans le monde occidental, là. Ça te prendrait un gros héritage familial pour être aussi
ouais.
Bohème un peu, là, mais. Il y a des endroits où ça se peut, parce que justement, on n'est peut-être plus si connecté que ça avec... on n'a plus le même rythme de vie, disons, malheureusement. Il y a d'autres sorties cette semaine également. Écoutez, le mariage de l'année 3, My Big Fat Greek Wedding 3, de Nia Vardalos. En fait, c'est elle qui joue dans les films, dans les deux premiers également, la personnage principale, mais c'est la première fois qu'elle est aux commandes à la réalisation du film avec John Corbett. Également, pardon. Ben, on l'a pas vu parce que j'ai jamais vu les deux autres.
Même chose pour moi.
Ouais, c'est ça. Je savais pas si t'avais vu le premier.
Non, ben, je me rappelle du buzz quand c'était sorti, mais j'étais plus jeune, ça m'intéressait moins. Fait que j'étais passé à côté.
Écoute, attends, je te parle rapidement de l'histoire du nouveau, là, c'est que là, ils sont rendus dans la cinquantaine. On se souvient que c'est un Américain puis une Grecque qui sont mariés. Puis là, elle veut honorer les dernières volontés de son père. Fait qu'ils vont se rendre, toute la famille, dans le village natal en Grèce, un petit village avec, c'est ça, toute la famille. Puis il va arriver, ben, c'est une comédie sentimentale. Là, ouais. Des blagues, des situations cocasses. Puis,
avec de beaux décors, évidemment, de beaux paysages.
Oui, c'est ça. Puis tu sais, ils se ramassent dans auberge qui n'a pas de bon sens, puis des affaires de même. Là.
Bon. Je sais que le premier avait été bien apprécié.
C'est un méga hit.
C'est
très unique, parce que le film a coûté genre 5 millions de dollars et il a rapporté 241 millions aux États-Unis. Puis là, on est en 2002. Là, fait que c'est un genre de 300 quelques aujourd'hui. 368 mondialement. Mais là, en regardant le box-office, ce qu'il y a de plus singulier, là, c'est qu'il n'a pas ouvert un week-end puis qu'il a fait 40 millions puis que blablabla, puis c'est descendu. Il est sorti en avril 2002. Il jouait sur 100 écrans. Puis tout l'été, là, de avril jusqu'à août, il jouait sur... Après, à un moment donné, il montait à environ 400 à 500... environ 400 écrans, puis excuse, il faisait entre 500 000, puis amenait 1,5 million. Puis c'est comme s'il montait tranquillement, il se maintenait, il restait là. Puis c'est pas tant d'écrans, là, ça veut dire qu'il n'était pas encore sorti mondialement. Puis là, le 16 août, mi-août, il s'est mis à ouvrir là, sur 1000 écrans, puis de plus en plus. Puis là, il a fait des week-ends de 5 à 11 millions. Fait que ça faisait déjà 4 mois qu'il jouait avant qu'il commence à avoir une sortie large. Puis là, il s'est maintenu tout le temps, puis il a quitté l'affiche en avril 2003, fait qu'il a joué genre 50 semaines au cinéma.
Très rare.
Puis à la fin, tu sais, c'était pas 8 semaines de 6 écrans. Là. Les dernières, il était quand même retourné à une dizaine, là, un 30, un 50 écrans. Puis là, la dernière semaine, évidemment, il en avait 5, puis là, il a fait 1 000 $, là, mais... Fait que c'est ça. Fait qu'il a fait 240 millions, mais genre un an aux États-Unis et au Canada. Une espèce de rise and fall, un peu, là. Fait qu'un cycle qu'aucun film ne fait, ou sinon c'est des micro-cycles sur 3 semaines, là, t'sais. Bottoms a fait un peu ça, là. Yo sur 8 écrans, après yo sur 100, yo sur 1000, puis après ça redescend, puis ça va être la fin, t'sais.
Ah non, c'était toute une histoire Cendrillon, je m'en souviens à l'époque. En plus, film produit par Tom Hanks et sa compagne Ruth Wilson.
Ah ouais, OK, je savais
pas. Rita Wilson, ouais, Rita, je pense. Donc oui, c'est elle qui avait reçu le scénario, puis qui avait dit « Attends, mais produis ça, il y a quelque chose, puis écoute. »
En plus, on est en 2002, là, je sais pas, j'ai pas les chiffres de ça, mais il y a dû s'en vendre, puis s'en louer des DVD, puis des VHS, c'est cette clair, affaire-là. Oui. Fait que, ouais, 2002, il y avait des VHS encore, puis tout. Fait qu'il y a dû avoir de l'argent, là, beaucoup aussi. Un hit comme ça, les droits télé, n'importe quoi. Fait que, oui, ça a dû être... c'est ce genre de film-là que, si ça se trouve, Tom Hanks, ça a comme pouf, lancé encore plus sa compagnie de production, là, un coup de circuit comme ça. Là.
C'est clair.
Et le deuxième volet est sorti en 2016, là, beaucoup moins... planétaire mondial comme succès-là.
Ouais, je sais que ça avait déçu.
Un 60 ouais. millions aux États-Unis, 90 mondial. Fait que tu vois, on était 15 ans plus tard à peu près. Là. Fait que j'imagine que c'était leur vie de famille maintenant qu'ils ont des enfants puis des affaires de même. Là.
Mais en tout cas, les échos de cette nouvelle suite sont beaucoup plus positifs que la suite de 2016,
ah
2007,
ouais, okay.
2016. 2016, ouais, 2016 donc, pour peut-être les amateurs du premier qui avaient été déçus par le deuxième, peut-être que
on
vous
se
serez...
rattrape ici.
Ouais, on se rattrape.
Alors voilà pour le mariage de l'année 3. Et autre comédie sentimentale également, Sexygénaire de Robin Sykes, qui est ni connu ni d'Ève ni d'Adam, avec Thierry Lhermitte et Patrick Timsit. L'hôtel de la Côte d'Azur, je pense que c'est de Lhermitte, qui est au bord de la ruine, fait que, étant un beau veuf, car c'est un bel homme, dans la soixantaine, il va se laisser entraîner par son vieil ami dans une espèce de carrière de mannequinat pour se refaire un peu d'argent à travers de ça. Fait que c'est un classique duo de personnes dépareillées, un qui est beau, un qui est plus moche, mais c'est deux acteurs très charismatiques, fait qu'ils vont bien livrer ça, puis on va traiter diverses questions, notamment la fameuse l'âge et la beauté, puis est-ce qu'on devrait matérialiser notre corps et ces choses-là dans cette comédie plutôt légère, Sexygénaire. C'est le pire titre. C'est le meilleur, mais c'est le pire titre. Là. Je suis désolé, là, je comprends, mais en tout cas, je trouve ça un peu de mauvais goût. C'est ce qui conclut ce balado. J'ai pas noté tant d'autres films, du moins pas en sortie large. La semaine prochaine, fait que, là, on lançait le bal de l'horreur tranquillement, là, début septembre, comme ça, avec The Nun. On a Mystère à Venise le 15 septembre, qui fait qu'il y a un poireau un peu plus sombre ici, avec du paranormal. Solo, on parlait tantôt de
Théodore
Pellerin, voilà. Oui.
Dans une performance ahurissante.
Et colorée. En...
Oui, tout à fait.
C'est avec colorée. La paillette. Pour les fans écoute, de l'eau de rose, justement, After Everything, le dernier volet là, de la série de romans de Anna Todd aussi, qui en écrit comme un par mois. Là. Mais là, pour vrai, je pense qu'elle a écrit les 5 livres en 4 ans, là, une affaire comme ça. Oui, fait que là, ça, c'est le dernier volet. Mais ça sort dès mercredi dans certains cinémas, là, si vous ne vous pouvez plus, là, dès le 13 septembre pour... j'oublie même le nom des comédiens, je voulais les nommer, mais ça me sort de la tête. Fait que, voilà. Et comme d'habitude, écrivez-nous au balado@monciné.ca et on vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Monciné. Oui, il y a la nouvelle édition avec Magali Lépine-Blondeau en couverture qui sera en vedette dans Simple comme Sylvain qui sort, lui, le 22 septembre. Bref, le magazine est disponible en version physique dans votre cinéma favori ou en version numérique. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations.
Bien, sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn et faites gare à votre jardinier. On ne sait jamais, il pourrait peut-être être possédé.